Vous écoutez RTL.
Bonjour et merci. Alors vous le savez, dans votre curiosité, on aime l'histoire, la science, les grands destins. On aime regarder dans le rétro et aussi éclairer l'avenir et le tout avec Thomas Hugues. Elle est pas belle la vie. Bonjour Thomas.
Bonjour Anaïs. Ce serait pas votre dernière
Ça serait ma dernière.
Et ben voilà, j'en profite pour dire que c'était un bonheur de partager ces trois mois sur RTL tous les jours de 14 à 15. Et on va retrouver Sidonie. Ce sera du bonheur aussi à partir de lundi.
Oui.
Mais voilà.
Moi, je vous écoutais
merci,
lundi.
Merci, c'était top. Alors, on vous emmène, tiens, pour cette dernière avec Anaïs, on vous emmène dans une maison du futur. Est-ce qu'on va pouvoir la diriger à la voix en claquant des doigts? Est-ce que notre frigo commandera la pizza? On voit tout ça vers 14h30 sur RTL.
Et tout de suite, Thomas, pour bien commencer l'année, on vous emmène à Vienne pour le week-end.
Allez.
RTL.
Salut les gens, après 12 heures de bus, me voilà arrivé dans la capitale autrichienne qui est aussi la plus grande ville.
La curiosité est un vilain défaut.
Et qui est très souvent considérée comme une des villes les plus agréables à vivre au monde.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Si je t'écris ce soir de Vienne,
j'aimerais bien. L'une des plus belles chansons de Barbara qui sert d'écrin à notre émission aujourd'hui.
Ça commence bien.
Oh, c'est magnifique. Avec l'équipe de la curiosité, on s'est demandé où on irait bien passer quelques jours pour se remettre des fêtes. Alors bon, on a plus un sou, on est complètement rincé.
Foutu pour foutu, autant partir. C'est ça.
Direction Vienne. Le Figaro sort un numéro hors série sur la capitale autrichienne. Bonjour Isabelle Schmitz, vous êtes rédactrice en chef adjointe de ce numéro.
Avec bonjour vous, Isabelle.
On part donc.
Ça va bien?
Ouais, on part. Très bien. On dit bonjour en allemand, vous savez. Thomas, vous avez fait allemand?
Guten Tag.
Et en autrichien, pareil.
Je pense que c'est pareil.
Je pense que c'est pareil. C'est peut-être l'accent qui module.
Qui change un peu.
Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous la décrire, cette ville, comme ça? Quand vous arrivez là-bas, quelle est l'impression qui surgit?
Comme vous l'avez dit en introduction, c'est une des villes où il fait bon vivre. C'est la plus agréable à vivre, je ne sais pas, mais en tout cas très agréable à vivre. On sent une douceur, une courtoisie, une amabilité dans l'air. C'est très impressionnant quand on arrive, nous, Parisiens, nos villes. Notre ville sublime, mais parfois stressée. Mm-hmm. Et de voir que dans le tram, les gens se saluent quasiment, sont tout à fait courtois. Dans les cafés, vous êtes accueillis très gentiment. On vous propose quelle place vous agréerez le mieux. Enfin, des choses qui nous semblaient...
Complètement surréalistes.
Peut-être un peu surannées, mais exactement, qui peuvent nous sembler surréalistes. Et puis, il y a une beauté, une unité architecturale qui est
et puis, y a ce fleuve
assez étonnante.
Aussi. Ce fleuve, le Danube.
Ce fleuve, bien sûr, le beau Danube bleu, dont on parlera sans doute. Ce fleuve qui ne coupe pas exactement la ville en deux. Enfin, disons que la vieille ville est plutôt sur une des rives, mais après la ville nouvelle s'est étendue. Et c'est vrai que il y a le fleuve et puis il y a l'autre. C'est pas un fleuve, mais il pourrait être comme un fleuve parce qu'il est tout en rond. En fait, c'est le fameux ring, l'anneau, qui était en fait les anciennes remparts de la ville que l'empereur François-Joseph a fait abattre pour étendre la ville et construire de nouveaux palais et de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment l'axe principal qui frappe quand on arrive.
Alors, quand on parle de Vienne, l'une des premières images, peut-être la première image, c'est la valse. A-t-elle été inventée là-bas ?
Que de Vienne et valse de Vienne,
oui.
On l'a tous dans la tête. Eh bien non, figurez-vous, ce numéro du Figaro en série m'a permis d'apprendre que la valse n'a pas été inventée à Vienne. Les Français et les Allemands s'en disputent la paternité. ça pourrait être en fait, la valse a pu être inspirée de la volte provençale ou bien d'une danse d'Allemagne du Sud. Et la volte provençale qui était dansée au Moyen-Âge et puis ensuite à la Renaissance sous la cour des Valois. Donc de toute façon, ça remonte un peu à loin quand même, et elle s'est implantée en Autriche, on verra comment, mais de façon très populaire. Ce qui est amusant, c'est que nous, Français, aujourd'hui, on a sans doute, en tout cas c'était mon image, une image de la valse pour une certaine élite,
bien
des
sûr,
gens cultivés,
aristocratiques.
Ouais. Or, en fait, en Autriche, c'était tout le contraire, au départ.
Ça démarre quand, en Autriche?
Alors, ça démarre surtout au XVIIIe siècle, disons, ça commence à prendre forme musicalement. Mozart lui-même compose des danses allemandes, Beethoven aussi, et cela prend de plus en plus d'ampleur, surtout au moment, à la fin du XIXe, enfin au milieu, en fait, lors de la révolution de 1848, il y a tout un vent de libéralisme, de nationalisme, les nationalistes commencent à bouger et à faire trembler l'Empire austro-hongrois, et du coup, les danses de cour n'ont plus tellement bonne presse, et le peuple veut danser autre chose. Mmh. Et donc, la valse qui était dansée, qui était une danse populaire, se répand comme une traînée de poudre et part en fait du peuple pour finalement atteindre les élites.
Et vous racontez qu'il y a un Français, alors on est au tout début du 19e, hein, 1806, si j'ai bien lu Le Figaro hors série, il y a un Français qui a joué un rôle important dans l'avènement et la popularisation de la valse à Vienne.
Absolument. Il s'appelle Pierre Meunier.
Ouais.
Et ce Pierre Meunier a l'idée géniale de faire poser du parquet dans sa salle de bal. En fait, il a une salle de danse dans l'un des arrondissements les plus paysans encore, enfin campagnards de Vienne.
Ouais.
Et dans sa salle de danse, il fait poser du parquet, ce qui du coup permet à la valse d'être d'être glissée et non plus sautée. Les danses populaires, on imagine bien les sauts, les petites cabrioles, enfin pas les cabrioles, mais les sauts qu'on passe. Grâce au parquet, on commence à glisser et du coup la valse acquiert des mouvements beaucoup plus nobles et donc va grimper jusqu'aux échelons de la cour.
Impériale.
La cour impériale, n'ayons pas peur de le dire.
Mais oui, soyons ambitieux. Vienne, c'est aussi évidemment Strauss. Alors, c'est quoi l'histoire de Strauss? On va vous la raconter dans un instant. Et puis, on ira faire un tour à l'opéra aussi.
RTL.
J'ai cherché pour vous une ville belle, élégante, romantique, vivante, chargée d'histoire et un peu audacieuse. Eh bien, je l'ai trouvée. Il s'agit de Vienne.
Tomahug.
Mais c'est par une touche artistique et romantique que Vienne nous souhaite la bienvenue.
Anaïs Bouton.
Le somptueux château du Belvédère abrite un trésor signé par l'un des plus célèbres peintres autrichiens, Gustav Klimt.
La curiosité est un vilain défaut.
Maintenant que de Vienne, que de Vienne, les valses de Vienne.
Eh oui, comme dit François Fellman, on est parti valser à Vienne avec vous les curieux et avec la rédac chef adjointe du Figaro hors série, Isabelle Schmitz. Alors, quand on dit valse, quand on dit Vienne, on dit Strauss, on dit. Marche de Radetzky.
Absolument.
Alors, qui est ce Strauss?
Alors, ce Strauss, en fait, ces Strauss, parce que les Strauss sont quatre musiciens. Père, fils, neveu, etc. Mais c'est surtout les deux, Johann Strauss, père et fils, que l'on connaît.
Mmh.
Et Johann Strauss, en fait, est l'un des musiciens de la valse. Je vous ai cité avant Mozart, Beethoven, etc. Mais c'est surtout Strauss qui va s'illustrer dans ce genre, qui va le travailler avec son maître de musique qui est maintenant inconnu, mais qui à l'époque l'avait formé.
Et Strauss, il utilise son violon comme un outil, si j'ose dire, d'ascension sociale. On peut dire ça?
Ah oui, on peut dire ça, parce que grâce à son violon, grâce à l'orchestre qu'il forme, il va voyager d'abord partout en Autriche et puis ensuite en Europe, partout.
Et c'est des tubes?
Cela devient des tubes, absolument. Alors, celle qu'on connaît peut-être tous, c'est le Beau Danube Bleu.
On l'a aussi. Ça, ah oui, c'est ça. Pas le temps d'engager une valse avec Anaïs,
oh,
mais le cœur y est.
C'est bien dommage.
Je tiens à vous rassurer, les Parisiens. On danse la valse aussi ailleurs qu'à Vienne, on la danse à Paris. Nous sommes en partenariat en fait avec le Bal des Parisiennes qui organise un grand bal le 15 juin. Donc vous serez tous invités. Dans le Figaro série, vous verrez, il y aura l'invitation et vous pourrez pratiquer et voir danser magnifiquement cette valse. Alors l'histoire du Beau Danube Bleu, elle est amusante parce qu'en fait, elle est liée à Paris. En fait, Johann Strauss avait produit cette valse à Vienne. Ça n'a pas eu de succès. Et quand il l'a joué à Paris en 1867, lors de l'exposition universelle, là, il a été bissé, on l'a rappelé, je vous dirais pas 20 fois, mais peut-être 15. Et c'est devenu un véritable tube. Et c'est par l'intermédiaire de Paris que le Beau Danube Bleu s'est popularisé.
Alors Isabelle Schmitz, on est à Vienne, et quand on est à Vienne, on va à l'opéra. Forcément, c'est la ville de l'opéra. Alors, l'opéra de Vienne, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Puisque ce Figaro hors série, il nous permet aussi comme ça il nous offre un voyage immobile. Ça donne envie d'aller de passer un week-end là-bas, mais c'est aussi un voyage immobile. À quoi il ressemble cet opéra?
Alors cet opéra, en fait, pour nous Parisiens, c'est déstabilisant parce qu'on a l'habitude d'avoir un opéra un peu rond qui nous enrobe comme ça dans ses formes baroques. Là, il est construit comme un palais Renaissance de Florence. Donc c'est un monument plus en longueur, en angle, un peu plus trapu. Et en fait, ce monument a une histoire un peu tragique dès sa naissance. C'est qu'il était construit sur le Ring, le fameux boulevard construit par François Joseph. Et c'est le premier monument qui soit sorti de terre. C'est dire l'importance qu'ils accordent à l'opéra. Mais comme il y avait des travaux autour, les fondations étaient quasiment 2 mètres en dessous du ring. Et du coup, les Autrichiens se sont mis à dire, mais ah, c'est un funeste présage, cet opéra enterré, il a l'air de rien, etc. Tant et si bien que malheureusement, l'un des deux architectes qui avait œuvré a mis fin à ses jours, avant même l'inauguration de l'opéra, et le deuxième est mort quelques mois après, il était déjà malade, mais enfin, du coup, il est né sous un présage un peu funeste.
Et puis, d'ailleurs, François-Joseph avait la dent dure sur
l'opéra. Il a eu un mot un peu malheureux. Oui, il a eu un mot malheureux en disant, ça ressemble beaucoup plus à une gare qu'à un opéra.
Ce qui a permis un...
Ironie de l'histoire, ouais. Un pilote américain en 1945 a pris l'opéra pour une gare et l'a bombardé.
Voilà.
C'est drôle. Enfin non, c'est pas drôle. Mais...
Qui a laissé son nom dans cet opéra, qui en a été à la fois le modernisateur et le despote?
Alors, c'est Gustav Mahler. Nos auditeurs connaissent peut-être, sans doute, les compositions de Mahler.
Bien sûr.
Dans le sublime film Le Maître de Musique, par exemple, c'est rempli des musiques de Mahler. Et en fait, il a passé 10 ans à l'opéra de Vienne et il a totalement révolutionné la façon de vivre l'opéra en interdisant l'accès de la salle aux retardataires, en faisant éteindre les lumières pour qu'on se concentre sur ce qui se passe sur la scène.
Pas de portable, évidemment.
Mais surtout, alors ça, ce sont des choses qui comptent, mais surtout au niveau de la musique, en fait, il était connu pour être un despote parce qu'il cherchait la perfection, il cherchait l'œuvre d'art totale. Donc il faisait travailler ses musiciens jusqu'à ce que ce soit parfait. Il faisait aussi travailler ses chanteurs et notamment il a révolutionné l'art théâtral parce qu'il leur imposait de travailler leur rôle sans les bras, en disant en fait tous les chanteurs d'opéra font toujours des gestes stéréotypés comme ça, et il leur a dit non, travaillez sans bouger les bras et maintenant exprimez-vous avec votre visage et votre voix, et en fait du coup, les chanteurs d'opéra sont devenus de bons acteurs de théâtre.
Et ils ont dit « retenez-moi ou je fais un malheur ». Pardon,
j'étais forcée de la faire. Et moi, j'en avais une autre, et ces acteurs n'avaient pas de chocolat non plus. Voilà, alors, les blagues pourries, c'est sur RTL, c'est de 14h à 15h, c'est dans la curiosité. Et on va, puisqu'on est à Vienne, s'asseoir à la terrasse d'un café. Les cafés viennois sont réputés, mais pourquoi ? Réponse dans un instant sur RTL.
Thomas Hugues. Anaïs Bouton.
Monsieur Johann Van Boer.
Fais-le entrer.
Voilà Ferlation, le fils d'un aubergiste de Vienne.
Mes respects, Votre Altesse.
La curiosité est un vilain défaut. Sur RTL.
Et un extrait de Sissi, puisqu'on est à Vienne, on dira un mot de l'impératrice tout à l'heure. Toujours avec la journaliste Isabelle Schmitz, on découvre ce Figaro hors-série consacré à la capitale autrichienne. On ne peut pas parler de Vienne sans parler des cafés viennois. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces cafés, Isabelle Schmitz ?
Alors, ils ont de particulier que ce sont des havres de paix, de civilisation, que le garçon ne revient pas toutes les 15 minutes vous dire qu'est-ce que vous voulez d'autre. Et sinon, au revoir.
Vous faites très bien le garçon de café parisien.
Comme c'est malheureusement parfois le cas. Oui. Et qu'ils sont considérés en fait comme des lieux où on doit être bien pour lire, pour rencontrer des amis, pour être là et profiter de l'ambiance. Et donc, ils sont particulièrement vastes. Ça, c'est impressionnant, en fait, la concentration des tables de café. Si vous comparez entre Paris et Vienne, je pense que le ratio, c'est de 1 pour 4. Et
on a de la place.
On a de la place.
Il y a un café mythique, si on donne des conseils à nos auditeurs, oui, qui auront la chance éventuellement d'aller à Vienne, lequel faut-il aller voir absolument ?
Alors, il y a le café central, qui est dans le passage Ferstel, qui est en style, on dirait une cathédrale gothique. C'est incroyable, avec des lustres un peu fin 19e, début 20e. Donc, c'est très marrant. C'était le repère des écrivains, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, enfin, vous en aviez plein. Il y a le café Lantmann où allait Freud, parce qu'il allait soigner une pauvre dame au deuxième étage, pauvre riche dame totalement névrosée, qui d'ailleurs malheureusement n'a pas du tout progressé grâce à Freud, qui était surnommé le magicien par ses enfants, qui apparemment doutaient un peu de ses capacités thérapeutiques. Et puis vous avez aussi le café Havelka, qui était le repère de toute la nouvelle vague un peu avant-gardiste dans les années 60. Et tout ça, c'est dans le centre de Vienne.
Gâteau, qu'est-ce qu'on y mange? Bah oui.
Ah, mais on y mange plusieurs gâteaux célèbres.
Vous avez mal déjeuné,
le Sarreur Torte, le gâteau de l'hôtel Sarreur, qui est absolument traditionnel. C'est un gâteau au chocolat avec une fine couche de confiture d'orange amère.
Ah,
à ne pas confondre avec le forêt noir, c'est pas pareil.
On
y boit du chocolat, le chocolat viennois, mais avec la chantilly. Alors là, c'est vrai que le café viennois ou le chocolat viennois, il n'y a qu'à Vienne qu'on peut goûter une crème chantilly de cette qualité.
Bon, il n'y a pas que les nourritures terrestres, on peut visiter aussi le musée Sissi. Oui. À quoi ça ressemble?
Alors, le musée Sissi, il est situé dans la Hofburg, donc le palais impérial où habitait Sissi, une grande partie du temps. Et en fait, il est très intéressant, ce musée, parce qu'il reconstitue la vie de Sissi dans ses appartements. Donc, on voit vraiment les lieux où elle habitait, notamment sa salle de gymnastique assez impressionnante, où elle a des arceaux.
Oui, parce qu'elle elle faisait beaucoup de gymnastique.
Énormément de gymnastique. Elle était obsédée, en fait, par sa taille et son apparence. La directrice du musée nous disait qu'elle pensait qu'en fait, Sissi avait fait de sa beauté une sorte de manifeste. Elle n'avait pas besoin de parler, mais elle était tellement belle qu'elle existait par ce biais, parce qu'elle n'avait pas réussi à se faire à l'étiquette.
Parce que c'était un peu comme Lady Diana, elle.
Un peu comme Lady Diana. La différence, je pense, c'est qu'elle et l'empereur s'aimaient davantage que Lady Diana
et
le prince Charles. Et que Sissi était sans doute plus intellectuelle aussi, mais aussi élégante. Ça, c'est vrai qu'au musée, quand on voit ses robes, ses parures, ses 27 diamants, ses 27 étoiles en diamants qu'elle mettait dans sa chevelure, qui lui tombaient jusqu'au pied et qu'on coiffait 2 heures par jour, tous les jours.
Deux heures par jour, tous les jours, absolument.
Et quand sa servante ramassait les mèches de cheveux tombées, elle les mettait sur un plateau d'argent et elle saluait en disant je m'incline devant votre majesté.
Et ça vous fait rêver. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas assez de cheveux pour être coiffé 2 heures
c'est
par jour.
C'est une vie particulière. Et Sissi n'avait pas un lit à elle, par exemple. Elle dormait sur un lit de camp en fer qu'on repliait tous les jours.
Oui, parce qu'elle pensait que c'était bon pour sa santé. C'est ça, si je me souviens bien. Oui, parce qu'on a consacré une émission à Sissi que vous pouvez réécouter sur rtl.fr. Et je crois me souvenir qu'on avait parlé de cette fuite perpétuelle de Sissi et du train. Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi dans
le
musée?
Oui, absolument. Dans le musée, vous pouvez voir le wagon de train, vraiment reconstitué, le wagon de train dans lequel elle a sillonné l'Europe.
Et oui, parce qu'elle pensait qu'à fuir Vienne.
Elle pensait effectivement à fuir Vienne, à gagner sa liberté, en fait. Elle écrivait très jeune, 15 jours après son mariage, je vous cite ce qu'elle écrit: « Je me suis réveillée en prison, la main prise dans les fers et plus que jamais nostalgique. Toi, ma liberté, tu m'as été ravie. » En fait, c'est le drame de cette femme qui était pourtant amoureuse de son mari, mais qui avait épousé un empereur, donc qui forcément n'avait pas beaucoup de temps à lui consacrer, et qui se sentait totalement en cage et a cherché toute sa vie à fuir par tous les moyens possibles cette étiquette pesante.
Alors, si elle était à Vienne, elle pouvait manger des saucisses.
Vous y revenez quand même, vous avez vraiment faim. Gâteau, saucisses, c'est un menu à l'envers, mais pourquoi pas?
C'est un menu à l'envers. Alors, la fameuse saucisse viennoise, en fait, a été inventée en 1805 par un jeune Allemand qui venait de Francfort et qui a eu l'idée un jour, en 1805, de mélanger la viande de porc et la viande de bœuf pour élaborer cette saucisse qui a eu un succès fou et qui, depuis, est connue à Vienne comme la saucisse de Francfort. Et quand un Allemand arrive à Vienne et demande une saucisse de Vienne, on lui répond: non, ici on a des saucisses de Francfort. Mais en fait, ce sont des saucisses de Francfort à la viennoise.
Attendez Thomas, la saucisse, on la boit avec un petit coup de vin, avec modération.
Ah bah non,
bien
avec
sûr.
Une bière.
Non, il y a du vin à Vienne.
Ah, on va découvrir ça dans un instant sur RTL. Et puis alors, juste après, un petit saut dans le futur, avec une journée dans un futur proche, toutes ces innovations qui existent déjà ou qu'on nous prépare pour améliorer, enfin on l'espère, notre quotidien. Restez avec nous sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Notre cabinet de curiosité fait un tour à Vienne aujourd'hui avec la journaliste Isabelle Schmitz qui a préparé le Figaro hors série sur la ville. Alors, on le disait, il y a des vignes à Vienne?
Mais absolument, il y a des vignes dans la ville même, dans le 19e arrondissement qui est accessible en tramway. En fait, vous prenez le tramway, je crois que c'est la ligne 4, si je ne me trompe pas, et ensuite un bus, mais 3 stations, et vous vous retrouvez au beau milieu des vignes. Vous traversez des petits villages de campagne, mais qui font encore partie de Vienne. Et là, vous êtes dans des exploitations viticoles. Alors, il y a un week-end particulier où il faut y aller, c'est fin septembre, pour les vendanges. Et j'ai eu cette chance, du coup, parce que j'y étais au moment de notre reportage, où en fait, tous les vignerons installent des tables en bois dans leurs vignes et vous pouvez venir déguster le vin. Et ils vous servent aussi des spécialités locales. La fameuse saucisse.
Ça se marie bien.
Des bretzels, ça va très bien. Tout est sympa. Et puis, ils vous servent aussi en tenue traditionnelle. Ça, c'est très marrant. C'est du folklore actuel, quoi.
Vienne, on va terminer là-dessus, Isabelle Schmitz, c'est une capitale d'un pays important, l'Autriche, mais c'est une capitale qui mise sur quoi? C'est pas forcément sur le pouvoir, sur l'influence, sur quoi elle mise?
Non, je vous citerai la phrase de Dominique Meyer, le directeur de l'Opéra, qui m'a dit on dit souvent que la culture est un supplément d'âme. Ici, la culture est l'âme de la ville. Et donc, c'est la culture, la douceur de vivre, l'élégance, le fait que toute la ville va à l'Opéra. C'est incroyable, vous avez 500 places sur les 1700 places, 500 places debout qui sont à 3 ou 4 euros. et que le directeur d'ailleurs se bat pour défendre et garder à ses prix très bas, mais ce qui fait que du coup le peuple va tout le temps au concert, va dans les cafés, enfin, tout est fait en fait pour que la vie soit agréable, civilisée, belle.
Et on est extrêmement enchantés d'avoir fait un tour
aller,
là-bas.
Je vous souhaite d'y aller avec la fiancée qui vous donnera des idées de balade.
Merci pour ce beau Figaro hors série sur Vienne. Isabelle Schmitz, revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
Et c'était en partenariat avec RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.